Zoé avait les cheveux raides et noirs et des traits déjà bien dessinés pour une enfant de son âge, quand Rose ressemblait à un chérubin au petit visage rebondi et souriant, surmonté d'un halo de boucles blondes. Alors que la silhouette élancée et les longues jambes de l'aînée évoquaient la grâce d'une pouliche, on ne trouvait aucun angle chez sa cadette, douce et tendre, tout en rondeur. Rose, adorable et très sociable, avait appris à envoyer des baisers avant même de savoir dire bonjour. Avoir une petite sœur aussi intrépide conférait à Zoé, plus timide, le courage qui lui manquait parfois. Mais sa cadette la suivait partout, ce qui l'agaçait, et Zoé n'hésitait pas à la réprimander quand elle poussait l'audace jusqu'à lui piquer ses jouets. Les deux sœurs avaient 3 ans d'écart, et Zoé se souvenait encore de son émerveillement quand elle avait découvert le bébé dans son berceau. De son côté, Rose s'était immédiatement attachée à sa grande sœur, et son visage s'illuminait chaque fois qu'elle la voyait. La leucémie de Rose avait été diagnostiquée 3 ans plus tard. Bess, leur maman, avait expliqué à Zoé qu'il s'agissait d'une maladie du sang et que sa petite sœur devrait recevoir des traitements de chimiothérapie à l'hôpital et parfois y rester quelques jours. Quand elle s'était retrouvée seule, Zoé lui avait demandé si ce serait douloureux et celle-ci lui avait répondu que Rose serait sans doute affaiblie pendant quelques semaines, mais que ses traitements lui permettraient de guérir. C'était la première fois de sa vie que Zoé lisait la peur dans les yeux de sa maman. La vérité, c'est que ses parents étaient terrorisés, et la fillette n'avait pas tardé à s'en rendre compte. Brad, son père, prenait soin d'elle pendant les séjours de Rose à l'hôpital, de manière que leur mère puisse rester avec sa petite sœur. Et quand celle-ci serait guérie, la vie reprendrait son cours normal. Il le lui avait promis, et elle lui avait fait confiance. Lui aussi semblait y croire. 3 jours plus tard, Rose était partie à l'hôpital en compagnie de leur maman. Elle avait emporté sa petite valise rose et Pinky, son ours en peluche favori. Son séjour avait duré 4 semaines. Bess revenait à la maison tous les 2 ou 3 jours pour changer de vêtements et embrasser Zoé. À son retour, la petite malade avait perdu ses boucles blondes. Très affaiblie, elle passait la journée allongée sur le canapé, mais faisait l'effort de se lever pour jouer avec Zoé dès que celle-ci rentrait de l'école. Celle-ci était heureuse de retrouver sa petite sœur et sa mère à la maison. Les séjours à l'hôpital s'étaient succédés. Après avoir reçu une greffe de moelle osseuse de sa mère, l'état de santé de Rose s'était stabilisé, comme leur père avait promis. Ses boucles avaient repoussé, ainsi que ses cils et ses sourcils, mais d'un blond plus foncé. Zoé était si contente de revoir sa sœur qu'elle ne hurlait plus quand Rose lui prenait ses jouets. L'aînée s'était habituée à passer le plus clair de son temps avec son père. La maison n'était certes pas aussi bien tenue qu'avec Bess, très perfectionniste, mais il avait fait des progrès. À la fin de l'année, il était capable de se débrouiller presque aussi bien que sa femme. Au début, Zoé avait été forcée de lui expliquer les choses qu'il ignorait, par exemple la manière dont elle aimait qu'on lui prépare ses sandwichs et dans quel placard étaient rangées les céréales. Brad faisait la lessive, les lits, allait la chercher après l'école et cuisinait. Il laissait Zoé manger des bonbons tous les soirs si ça lui chantait, lui lisait des histoires, et ils appelaient Rose chaque jour avant de s'endormir. Chaque fois que Rose rentrait à la maison, ils organisaient une petite fête juste pour eux et confectionnaient des cupcakes ou un gâteau dans lequel ils plantaient des bougies pour que Rose ait le plaisir de les souffler. C'était comme s'ils célébraient son anniversaire 2 fois par mois. Zoé était consciente d'avoir beaucoup de chance que son père puisse s'occuper d'elle. Le métier de Brad lui permettait de travailler de chez lui dans son studio à l'étage. Il avait commencé sa carrière comme dessinateur de dessins animés pour Disney. Un jour, il avait eu l'idée d'écrire un livre sur une souris exploratrice. Le premier tome des aventures d'Oli dans les pays lointains était aussitôt devenu un best-seller. Le tome 2 était sorti peu de temps après, suivi d'une adaptation télévisée et de la commercialisation de produits marketing et de jouets à l'effigie d'Oli. Brad avait alors démissionné de chez Disney et Bess et lui avaient déménagé à San Francisco juste avant la naissance de Zoé. Ils avaient été surpris que son album rencontre un tel succès et un nouveau tome, traduit dans 16 langues, paraissait chaque année. Oli avait fini par épouser Marina, un petit rat de l'opéra, et ils avaient accueilli des jumeaux prénommés Charlie et Serafina. Mais les aventures de la souris ne s'étaient pas arrêtées là pour autant, car elle voyageait désormais en famille. Zoé adorait quand son père lui lisait les livres d'Oli, mais elle était tout aussi ravie de monter lui rendre visite dans son studio. Brad lui avait aménagé un petit bureau dans un coin, avec son propre carnet de croquis, ses feutres et ses stylos, et plus tard des tubes de peinture. Elle s'amusait à dessiner, elle aussi, les péripéties des souris voyageuses. Bess avait quant à elle travaillé comme infirmière en chirurgie dans un hôpital de L.A. jusqu'à leur déménagement à San Francisco. Après la naissance de Zoé, elle était devenue femme au foyer et consacrait ses journées à sa fille. Elle ne s'ennuyait pas, entre les balades au parc, la confection de cookies, les leçons de natation ou les goûters avec d'autres enfants. Chaque semaine, elle suivait aussi un cours d'éveil musical pour maman et bébé. Rose était née au début de la première année de maternelle de Zoé, et la fillette avait eu l'impression que leur famille était enfin au complet, comme celle d'Oli, Marina et leurs jumeaux dans les livres de son père. Quand Rose avait eu 4 mois, Bess avait permis à Zoé de la présenter à toute sa classe. Le bébé avait adressé des sourires à la ronde, et quand elle avait fini par s'endormir, l'avis avait été unanime. Elle ressemblait à un petit ange. Les enfants s'étaient extasiés sur les sœurs, l'une aussi blonde que l'autre était brune, et ils avaient fait remarquer qu'elles avaient toutes les deux de grands yeux bleus, comme leur maman. Zoé aimait beaucoup vivre à San Francisco, dans leur vieille maison à étages pleine de recoins, dotée d'une vue magnifique sur la baie et le Golden Gate. C'était la seule demeure qu'elle ait connue depuis sa naissance. Au départ, Rose dormait dans un berceau à côté du lit de ses parents, puis on l'avait installée dans un lit à barreaux en face de celui de Zoé. Le soir, Zoé s'approchait sur la pointe des pieds et venait admirer sa petite sœur, profondément endormie. L'année où la maladie de Rose avait été diagnostiquée, elle dormait déjà dans un grand lit comme sa sœur. Leur père avait peint sur l'un des murs de la chambre une fresque représentant un jardin enchanté dans lequel voltaient de petites fées ailées. Zoé ne se lassait pas de le contempler. Pour elle, c'était la plus jolie chambre du monde entier. Pendant ses séjours à l'hôpital, Rose manquait beaucoup à Zoé, qui observait tristement le lit vide en face du sien. Elle se sentait seule et comptait les jours jusqu'au retour tant attendu de sa cadette. Zoé était fière de son statut de grande sœur et elle adorait Rose, même si celle-ci pouvait se montrer chippie par moments. Quand elle se rappellerait plus tard ses 6 premières années avant la maladie de Rose, lui reviendraient des souvenirs d'un bonheur parfait, d'une existence heureuse entourée de parents aimants et d'une petite sœur pleine de joie de vivre. Rose n'avait eu qu'une courte année de répit après la grève de moelle osseuse, puis la leucémie était revenue, cette fois sous une forme plus maligne. La fillette avait de nouveau perdu ses cheveux et on avait dû lui poser un cathéter pour ménager les veines de ses bras mises à mal par les séances répétées de chimiothérapie. Les 2 années suivantes avaient été un véritable cauchemar pour Rose, dont l'état de santé s'était détérioré lentement mais sûrement. Elle rentrait encore chez eux entre 2 traitements, mais elle pleurait beaucoup et passait son temps à dormir. À 9 ans, Zoé était assez grande pour comprendre que sa petite sœur s'éteignait peu à peu. Leur mère répétait toujours que Rose allait guérir, mais son père ne faisait plus de promesses, et quand Zoé lui demandait ce qui allait arriver, il lui répondait sobrement qu'il n'en savait rien. Elle ne voyait plus que rarement sa maman, qui passait le plus clair de son temps au chevet de sa fille malade, refusant de la laisser seule un instant. Il y avait tout bonnement trop de problèmes à régler, de décisions à prendre, de médecins à contacter ou à rencontrer à l'hôpital. Son père était lui aussi souvent absent. Il passait du temps avec Rose ou s'entretenait avec les spécialistes, et c'était alors les voisins qui gardaient Zoé. Durant la dernière année de Rose, Zoé avait surpris à maintes reprises ses parents sangloter de désespoir. Cela faisait bien longtemps qu'ils n'avaient pas éclaté de rire ou simplement souri, et ils étaient constamment stressés. Elle pouvait lire dans leurs yeux quand sa sœur allait mal, ce qui était presque toujours le cas. À 6 ans à peine, la fillette avait le regard d'une vieille femme fatiguée malgré son corps d'enfant. Parfois, Zoé s'asseyait à côté de son lit et se contentait de lui tenir la main. Un jour, Rose lui avait demandé si des fées allaient bientôt descendre sur terre pour l'emmener au paradis, et Zoé, en larmes, lui avait assuré avec fermeté qu'elle n'irait nulle part. Elle avait entendu ses parents dire que Rose était atteinte d'une forme particulièrement virulente de leucémie, plus difficile à vaincre que d'autres que l'on parvenait à guérir. Vers la fin, Bess et Brad semblaient constamment terrifiés.